VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous pour ce bulletin d'information. Un mouvement de grève générale a été lancé ce mercredi par l'opposition et la société civile à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle réclame des élections avant la fin de l'année conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Les banques, stations-services et autres commerces sont restés fermés à Bukavu, capitale du sud Kivu. Les élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés. Des agents de police anti-émeute était positionné dans différents points de la ville. RDC, toujours, un collectif d'intellectuels de la diaspora et de l'intérieur demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'aider à mettre sur pied une transition sans la classe politique congolaise actuelle. Les animateurs de cette période devraient, d'après le collectif, préparer les élections sans y participer. Docteur Miatusila Malonga est l'un des signataires de la lettre.
Pour sortir de cette impasse, il faut une transition sans Kabila. Mais nous disons que c'est une transition sans les politiciens. On n'a rien pour ou contre Kabila, ça ne doit pas être personnalisé. Mais nous disons simplement qu'il nous faut une transition apolitique. Et je crois que le nom qui vient de plus en plus et que nous entendons de plus en plus, c'est par exemple le docteur Mukwege, le professeur Mbata et certains membres de la commission épiscopale. Donc nous n'avons rien contre ces gens-là-bas. Nous appuyons aussi longtemps que ils rencontrent l'assentiment de beaucoup de Congolais du terrain. Nos politiciens se sont arrangés pour prendre le pays en otage. On le sent dans la façon dont la Cour suprême se comporte. Et nous avons les contacts avec certains des membres de ces institutions. Ils se plaignent. Ils n'ont pas les mains libres. En fait, ils ne sont pas indépendants.
Docteur Miatusila Malonga, membre du collectif d'intellectuels congolais de la diaspora et de l'intérieur, signataire de la lettre adressée au Conseil de sécurité. Au Libéria, la Cour suprême a convoqué la Commission électorale nationale pour une audience demain jeudi. Elle a été saisie par trois partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. La Cour suprême a en effet ordonné à la Commission électorale de suspendre toutes les actions lié au second tour prévu le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, plus de 1300 ex-éléments de la secte Boko Haram, tous originaires de la région du Lac, ont quitté le mouvement djihadiste pour faire la paix. Notre correspondant André Kodmajinga s'est rendu la semaine dernière dans cette région.
Après plusieurs mois de cantonnement dans un camp de transit à Bagassola, ces repentis de Boko Haram ont été confiés à leurs chefs des communautés respectives. Des sensibilisations ont été faites auprès de la population locale pour ne pas les stigmatiser, mais plutôt les accepter dans la communauté comme leurs frères. À Yakoua, un des villages abritant une partie de ces repentis situé à une dizaine de kilomètres de Bol, chef-lieu de la région du lac où nous sommes rendus, quelques repentis expliquent comment ils ont été enrôlés dans cette secte.
Je vivais avec mon mari quand les Boko Haram sont venus dans notre village. Ils ont tué les gens et brûlé toutes nos maisons. Ils nous ont dit que si nous ne partons pas avec eux, ils vont nous tuer aussi. C'est ainsi qu'on a décidé de partir avec eux en abandonnant nos deux enfants. À chaque fois, on attaque un village et quand les habitants fuient, on ramasse leurs provisions et on se partage pour manger. Chemin faisant, mon mari a été tué et ils veulent me donner un autre mari et j'ai refusé. Ils m'ont menacé et j'ai fui pour venir ici après avoir combattu pendant 3 ans avec les Boko Haram.
On m'a enrôlé de force. Tous les jours durant les 3 ans que j'ai mis avec eux, ils nous ont appris le maniement des armes, par exemple comment faire exploser une bombe. Maintenant que j'ai retrouvé mes parents, je ne vais plus repartir.
Un agent humanitaire qui requiert l'anonymat a déclaré à la VOA Afrique que les autorités locales font de la gestion de ces repentis leur fonds de commerce.
La meilleure approche, c'est de ne pas les considérer comme des repentis à part dans les actions de développement, mais c'est de mettre les actions de développement ensemble. En voulant les aider, vous créez quelque chose ici. Le petit commerçant qui n'a pas bougé avec son moulin ici, vous venez avec un moulin sophistiqué, vous donnez aux repentis, mais vous avez cassé son marché. C'est pas parce qu'on les a vus à la télé qu'ils souffrent qu'il faut donner des moulins. C'est un sérieux problème de communication. À qui m'adresser en cas de problème en tant que repenti? Parce que si tu dis à l'autre, il va aller te trahir. Du moment où les responsables devenu un fonds de commerce. Tous ceux qui sont dans les pirogues, là, c'est des agents de renseignement.
Pour le gouverneur de la région du lac Adum Forte, il n'y a aucun problème dans la gestion de ces repentis.
À ma connaissance, il n'y a aucun problème. Depuis qu'on a intégré dans des familles, il y a au moins deux fois des appuis au niveau des femmes qui ont été faits. Là, nous sommes en discussion pour essayer de voir comment les partenaires peuvent nous aider afin que ces gens puissent se prendre en charge. Leur avenir dépend de la manière qu'on arrive à les responsabiliser pour qu'ils puissent prendre conscience.
Selon les indiscrétions, beaucoup sont repartis puisqu'ils sont fatigués d'attendre la promesse de leur réinsertion qui tarde à se concrétiser. André Kodumadjingar, de retour de Bol dans la région du lac N'Djamena, pour VOA Afrique.
En Tunisie, deux policiers ont été poignardés aujourd'hui devant le Parlement par un extrémiste. L'auteur de l'attaque a été arrêté d'après le porte-parole des forces de sécurité nationale. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Le parquet sud-africain va réclamer vendredi une peine plus lourde pour l'athlète paralympique Oscar Pistorius. Le parquet juge scandaleuse et clémente sa condamnation à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne, énième rebondissement dans cette saga judiciaire. Il présentera ses arguments devant la Cour suprême d'appel de Bloemfontein en l'absence du champion olympique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici même, aux États-Unis, au moins 8 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées hier à New York, quand le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants dans le sud-ouest de Manhattan. Jean-Roger Billon nous fait le point.
Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lors d'une conférence, selon les informations dont nous disposons en ce moment, c'était un acte de terrorisme particulièrement lâche qui visait des civils innocents. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a parlé d'une attaque perpétrée par un loup solitaire, ajoutant que rien n'indique qu'elle faisait partie d'un plus vaste complot. Quant au chef de la police de New York, James O'Neill, il a affirmé que vers 15h05, heure locale, un homme au volant d'une camionnette louée auprès du magasin Home Depot a emprunté la piste cyclable, fauchant cyclistes et passants. Le véhicule a aussi percuté un bus de ramassage scolaire, blessant 2 adultes et 2 enfants. Le suspect a alors abandonné la camionnette, brandissant ce qui ressemblait à 2 armes à feu qui se sont révélées être un fusil à air comprimé et un fusil de paintball. Il a été atteint à l'estomac par la police et appréhendé par les forces de l'ordre. Il a subi une intervention chirurgicale et devrait survivre. Selon la police, le suspect aurait crié « Allahu Akbar, Dieu est grand » quand il est descendu de la camionnette. Mais interrogé à ce sujet, le chef de la police s'est contenté de répondre sans autre précision « Oui, il a fait une déclaration ». La police de New York a annoncé le renforcement du dispositif de sécurité à travers la ville par mesure de précaution. Le suspect serait, dit-on, un immigré ouzbek de 29 ans, appelé Seyfullo Saipov, entré aux États-Unis en 2010 et habita à Tampa, en Floride. L'incident a eu lieu près du mémorial du World Trade Center, dans le sud-ouest de Manhattan.
Toujours aux États-Unis, les élus républicains du Congrès présentent leur projet de réforme de la fiscalité, perçu comme le projet phare du début de présidence de Donald Trump. L'objectif est d'injecter quelques 1 500 milliards de dollars dans l'économie dans les 10 prochaines années. Si ce projet est adopté et promulgué, ce serait la première grande réforme fiscale depuis 1986. Le Congrès poursuit les auditions de responsables des géants de l'Internet Google, Twitter et Facebook qui ont reconnu avoir servi de plateforme à des actions de propagande russe pendant la campagne présidentielle de 2016. Après une commission du Sénat, c'est la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui conduit ces auditions. En Palestine, le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a cédé ce mercredi à l'autorité palestinienne le point de passage entre l'enclave palestinienne et l'Égypte. Nazmi Mouana, principal responsable de l'autorité palestinienne pour les postes frontières, et son homologue du Hamas ont signé l'accord permettant ce transfert de responsabilité. Cette cession du point de passage est considérée comme un test pour l'accord de réconciliation palestinienne conclu le mois dernier. Au terme de cet accord négocié par l'Égypte, l'autorité palestinienne doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Gaza. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.